RFI TV5 Monde vous présente Afrique Press, Denise Époté-Durand.
Bienvenue dans Afrique Press, l'émission débat RFI TV5 Monde consacrée à l'actualité africaine et internationale de la semaine. À mes côtés aujourd'hui, Hassan Diop de Radio France Internationale, Stéphanie Hartmann d'Africa numéro 1 et Laurent Larcher de La Croix. Au sommaire, les élections à Djibouti, au Tchad et aux Comores. Pas de surprise pour Idriss Déby Itno et Ismaël Omar Guelleh, qui vraisemblablement seront élus dès le premier tour. L'un et l'autre entameront leur cinquième mandat à la tête de l'État. Aux Comores, confusion et incertitude, 5 jours après le double scrutin pour la présidentielle et la désignation des gouverneurs. Puis nous irons au Cameroun, à 2 ans de la fin du mandat de Paul Biya. Le débat sur la révision constitutionnelle qui découlerait d'une élection anticipée divise le parti au pouvoir. Un débat qui, pour l'heure, n'a entraîné aucune réaction de l'exécutif. À Djibouti, en attendant la validation des résultats par la Cour suprême qui devra intervenir dimanche avec 86,7% des suffrages contre 7% pour son principal rival, Ismaël Omar Guelleh est quasiment assuré de remporter l'élection présidentielle. Le reportage d'Emmanuel Godard.
Il a l'air confiant et il peut l'être. C'est un scrutin sans grand suspense qui se joue à Djibouti. Le président sortant, Ismaël Omar Guelleh, au pouvoir depuis 1999, est assuré de gagner. Il a d'ailleurs modifié la constitution pour pouvoir se présenter pour un 4e mandat.
Je suis très optimiste. Un travail, nous avons mené une campagne éprouvante. Nous avons sensibilisé la population autant que nous avons pu.
Pourtant, la participation est faible. Beaucoup ne vont pas voter. Les chômeurs surtout déçus. Ils sont nombreux dans ce pays de contraste. 60% de la population. La grogne sociale existe, mais elle est étouffée par un appareil sécuritaire très présent. Une situation dénoncée par des organisations de défense des droits de l'homme. À l'image d'une opposition muselée et une opposition qui a du mal à s'organiser, totalement divisée. Du coup, plusieurs candidats ont appelé au boycott de cette élection, la taxant de mascarade. Certains représentants de l'opposition auraient même été refoulés de plusieurs bureaux de vote. Pendant ce temps, le président poursuit sa politique de grands travaux, largement financée par la Chine. Mais jusqu'à présent, les Djiboutiens sont peu nombreux à en profiter.
Hassan Diop, l'appel au boycott n'a pas été suivi. Puis déjà avant la proclamation par la Cour suprême, 2 opposants ont reconnu la victoire d'Ismaël Omar Guelleh. La messe est dite.
Oui, la messe est dite. Il faut dire que les vrais poids lourds de l'opposition ne sont pas allés, n'ont pas participé à ce scrutin. Il faut dire que plusieurs semaines avant le scrutin, ces opposants étaient interdits de meeting, de rassemblement, au prétexte qu'il y a une menace terroriste et en application de lois terroristes qui ont été adoptées, alors que finalement rien ne justifiait l'interdiction de ces rassemblements. C'est vrai que, bon, Omar Guelleh, pareil, il a trituré la Constitution en 2010. Hein. Normalement, il y avait une limitation du nombre de mandats présidentiels. Donc, pareil, il a fait modifier cette Constitution pour rester au pouvoir. Comme Idriss Déby, du reste, la même chose. Ce que l'on peut constater également, c'est que il n'y a pas de réaction véritablement d'indignation ou de condamnation de la communauté internationale. Au sort qui est réservé aux opposants, au sort qui est réservé à la société civile, ni de Paris, ni de Washington, encore moins de Pékin, autant de grandes puissances qui ont des dispositifs militaires, notamment à Djibouti. Faut savoir que, par exemple, le plus grand nombre de militaires français à l'étranger sont déployés à Djibouti, quelques 1900 hommes, et que Djibouti est l'une des bases avancées des armées occidentales, notamment des États-Unis, pour lutter contre les djihadistes au Moyen-Orient et dans le Golfe, notamment dans le Golfe d'Aden, dans la région du Yémen, etc.
Voilà. Laurent Larcher, c'est donc une situation qui profite à Omar Guelleh, puisque dans cette corne de l'Afrique, Djibouti apparaît comme un pôle de stabilité.
Oui, on est dans le cas classique de mieux vaut la stabilité que la démocratie. Tout le monde pense avoir intérêt au maintien au pouvoir de Guelleh. Bien entendu, la France. les États-Unis et la Chine, qui va avoir une base militaire
en 2017.
Gigantesque. Ça va être vraiment un point d'ancrage pour la Chine sur le continent africain extrêmement important. Et voilà, donc on a un pouvoir qui bénéficie de la géopolitique pour mater sa population, en tout cas son opposition. Non seulement les grandes puissances se taisent, mais on peut aussi, si on regarde dans le détail, participe un peu quand même à la manière dont ce régime, opprime son opposition, notamment les forces de sécurité. L'armée est encadrée par ces puissances occidentales. Nous avons, nous, les Français, des militaires dont le métier et la mission plutôt est d'encadrer, entraîner ces forces de sécurité.
Absolument. Alors, aux Comores, à Hassan Diop, les choses sont un peu plus compliquées, puisqu'il y a le principe de cette élection tournante, qui passe de la Grande Comore à Moélie et puis à Anjouan. Cette année, c'est au tour de la Grande Comore, mais aujourd'hui, l'opposition crie au tripatouillage, car elle suspecte le clan du président sortant, Ikilélou, de vouloir se maintenir au pouvoir.
Oui, c'est le même scénario récurrent que l'on trouve partout. Et puis, l'archipel des Comores, c'est véritablement une sorte d'archipel à la dérive, politiquement en tout cas, et ça depuis très longtemps. Un archipel qui était habitué aux coups d'État, à des instabilités politiques récurrentes, à des influences parfois islamistes, plus ou moins radicales. Et à chaque fois, effectivement, ceux qui ont le pouvoir ne veulent pas s'en séparer. Moyennant quoi, ça crée
l'instabilité.
Pour revenir sur le Tchad et Djibouti, il y a une utilisation dévoyée, je dirais, du terrorisme. Donc il y a tout un arsenal juridique qui a été adopté à Djibouti pour tenir à l'écart et dans l'éteignoir l'opposition. Chez Idriss Déby, le terrorisme, évidemment, a servi à empêcher l'opposition de tenir des meetings, des rassemblements. Mais le terrorisme aussi lui a servi d'avoir le soutien de la communauté internationale. Aujourd'hui, Idriss Déby est le condottiere véritablement des grandes puissances, c'est-à-dire le bras armé, en quelque sorte.
Le gendarme du Sahel.
Le gendarme du Sahel. Il intervient militairement au Nigeria. Il intervient militairement au Mali.
Au nord du Cameroun.
Au Cameroun. Le dispositif militaire français Barkhane, l'état-major, a un pied, en tout cas, au Tchad. Donc, on ne peut rien lui refuser. Et moyennant quoi, effectivement, avec la complicité de la communauté internationale, le Tchad est plus que jamais un pouvoir qui repose sur un régime militaire.
Alors, à propos du Tchad, malgré les insuffisances relevées par l'Union africaine, Idriss Déby est en passe de remporter le premier tour. Il faut rappeler qu'il dirige le pays quand même depuis 1991. Commencera donc, après cette élection, un nouveau mandat de 5 ans que l'opposition et la société civile contestent. 4 des 5 représentants de la société civile arrêtés ont été relâchés. Je vous propose de revenir sur le scrutin du 10 avril avec le reportage de Mélissa Scheman.
Jour d'affluence pour un vote d'importance. Des Tchadiens largement mobilisés pour ce scrutin, mais le vote ne se déroule pas sans encombre. Ouvert dès 7h du matin, les bureaux devaient fermer à 18h. Plusieurs resteront ouverts jusqu'à 19h. Des Tchadiens également privés d'Internet toute la journée de dimanche. L'armée et la police sont également déployés à grand renfort dans les rues. Comme ici dans l'est de la capitale, N'Djamena, de nombreux électeurs ont été empêchés de voter. Manque de bulletins, longue file d'attente, certains accusent aussi les autorités de bourrage d'urnes, d'autres n'ont pas hésité à se plaindre.
On revendique le reste de bulletins pour que les électeurs qui n'ont pas pu voter là, on doit voter, même s'il s'agit de voter jusqu'à 24 heures, nous sommes présents pour exécuter notre droit de citoyenneté.
Le dépouillement a commencé dans la nuit de dimanche à lundi, souvent à la lampe torche. 13 candidats se sont présentés à cette élection, dont le président sortant, Idriss Déby Itno, au pouvoir depuis 26 ans. Les résultats seront connus dans une dizaine de jours.
Laurent Larcher, Idriss Déby comme Ismaël Omar Guelleh, l'allié incontournable à qui on pardonne tout.
Écoutez, en fait, on a le prolongement, ou plutôt la nouvelle formulation de ce qui s'était passé du temps de la guerre froide. Du temps de la guerre froide, les Occidentaux et les grandes puissances occidentales avaient besoin d'autocrates ou de dictateurs pour contenir, l'expansion de l'Union soviétique et du communisme. C'était, par exemple, l'alliance avec le Zaïre et de Mobutu. C'était tout à fait clair. Aujourd'hui, la peur et le danger est représenté par l'islamisme, appelons-le ainsi, ou le terrorisme. Mais enfin, c'est quand même, en tout cas, l'islamisme. Et donc, on est aussi là, prêt à tous les compromis pour contenir cette expansion. C'est très clair pour Djibouti, je vais y arriver. Et bien entendu, pour le Tchad. Je voudrais quand même ajouter une chose, si vous voulez bien. Pour le Tchad, il y a quand même une nouveauté à l'occasion de cette élection, qui est l'émergence, même si elle a été
opprimée, de la société civile.
Absolument. Et là, c'est un phénomène important dont il ne faut pas négliger, cette alliance de société civile et des jeunes qui, au fond, depuis un an et demi à peu près, s'inspirant quand même du
l'exemple,
absolument, mais aussi de Yanamar au Sénégal, est en train de sortir, courageusement en tout cas, d'occuper la place publique.
Stéphanie Hartmann, la société civile, une chance pour la démocratie en Afrique.
Oui, tout à fait, je le crois. En tout cas, j'ai foi beaucoup en ces mouvements citoyens. Je voudrais dire sur le chat, même si il peut se targuer, que Idriss Déby peut se targuer du soutien, en tout cas du quitus de Paris, il n'est pas si serein que ça. Pour preuve, l'annonce d'une révision de la Constitution au moment où il a annoncé sa candidature pour remettre la limitation des mandats. Donc c'est aussi des gages aussi qu'on veut donner à l'extérieur.
Et moi j'ajouterais simplement aussi que souvent dans ces élections on perd de vue les véritables enjeux, c'est-à-dire il n'y a pas de programme, on ne se préoccupe pas du tout du sort des populations, on ne se préoccupe pas du chômage des jeunes, 60% de chômeurs à propos du sujet sur ces élections à Djibouti. Voilà, les dirigeants politiques, s'ils sont élus par le peuple, ils doivent agir pour le bien du peuple et non le contraire.
À présent, le Cameroun, que se passe-t-il dans les rangs du RDPC, le parti au pouvoir? À 2 ans de la fin du mandat de Paul Biya, la question d'une élection anticipée et donc d'une révision constitutionnelle divise partisans du oui et du non. Dans le camp du non, on retrouve le secrétaire adjoint du parti, Grégoire Ona, pour qui on ne change pas les échéances au gré des humeurs. Et dans le camp du oui, ceux qui estiment qu'en 2018, les nouveaux présidents français et américains ne seraient pas favorables à une nouvelle candidature de Paul Biya, arrivé au pouvoir depuis 1982. Pour l'heure, aucune position officielle n'a été enregistrée. Que faut-il en conclure, Hassène Diop ?
Que pour la première fois, au moins, au sein du parti au pouvoir, le parti de Paul Biya, qui est au pouvoir, appelons-le, depuis 34 ans, je crois.
82, oui.
Oui, c'est ça, il est âgé de 83 ans. Et que pour la première fois, on touche à un tabou, c'est-à-dire la succession du chef, et que ça se passe à l'intérieur même du parti. On le sent, on sent une bataille entre des clans au sein même de cette formation politique, quand bien même des leaders de l'opposition qui ont tenté de se réunir fin mars à Yaoundé pour dénoncer ce projet, cette éventuelle élection anticipée, ont été réprimés brutalement. Voilà.
Laurent Larcher, jusqu'ici au RDPC, on avait été habitué aux motions de soutien unanimes. Ce clivage entre partisans du oui et du non est assez inédit.
Alors c'est tout à fait nouveau, en tout cas qu'il soit public. Mais alors moi, je m'interroge. Paul Biya c'est une vraie bête politique. Alors on peut dire tout ce qu'on veut de Paul Biya, mais
pour l'instant, il garde le silence.
Il a une vraie intelligence.
Il n'a pas réagi.
Il a une vraie intelligence politique. Et moi, je me demande si derrière toute cette histoire, c'est pas aussi une manière, parce que c'est vrai qu'on peut penser que c'est une crise de succession, mais il n'est pas encore mort.
Non.
Et d'une part, et d'autre part, je le crois tout à fait capable d'être, à l'origine de cette histoire, pour permettre à la jeune garde de se manifester et de voir qui sont ses amis et qui sont ses ennemis. De manière à, une nouvelle fois, parce que ce ne sera pas la première fois, neutraliser ceux qui pourraient lui faire de l'ombre.
Qui aurait des ambitions, comme le G11 il y a quelques années.
Machiavel.
C'est machiavélique, oui. Stéphanie Hartmann, une modification constitutionnelle nécessite, faut le savoir, un avis de l'exécutif et du législatif, représenté par le Sénat et le Parlement, où le RDPC est majoritaire.
Effectivement, et c'est la constitution actuelle, a déjà été modifiée 13 fois au Cameroun en 20 ans, donc c'est à peu près une fois tous les 2 ans, je ne suis pas très bonne en calcul, mais ça pose effectivement clairement la question de la succession, et puis moi j'ai l'impression aussi qu'il y a certains qui ont peut-être peur, alors vous dites qu'il n'est pas mort, bien sûr, Paul Biya.
Il vient de fêter ses 83 ans, voilà, hein, il y a deux
mais
mois.
Mais à 83 ans, 7 ans, c'est long. Moi, j'ai l'impression qu'on veut créer aussi ce poste de vice-président pour voir qui pourrait succéder, voilà, c'est-à-dire montrer, préparer la succession de Paul Biya et montrer d'ores et déjà le visage du dauphin éventuel.
Et là, c'est à la Carimouade, quoi.
Voilà, tout à fait.
Voilà, ouais. Et qui avait échoué au Sénégal. Ouais.
Effectivement, je pense qu'il y a des impatients au sein du RDPC qui souhaitent faire cette réforme constitutionnelle et mettre des élections anticipées parce qu'ils imaginent que c'est bientôt leur tour.
Mais encore, j'insiste, le vieux n'est pas mort.
Laurent Larcher.
Le vieux n'est pas mort.
C'est vrai qu'on a vu.
Hassan Diop.
Le vieux n'est pas mort, mais en même temps, il est vrai que c'est dans l'intérêt, en tout cas, du RDPC. Bon, le vieux n'est pas mort, mais enfin, il a 83 ans, il peut peut-être même décider de lui-même que voilà, qu'il a fait son temps, il se retire des affaires. Donc je crois aussi que quelque part le RDPC a intérêt à ne pas être pris au dépourvu, c'est-à-dire donc de préparer la relève. Et préparer la relève, effectivement, c'est d'avoir une constitution qui puisse permettre au parti, en tout cas au clan au pouvoir, de se perpétuer plutôt que d'aboutir, par exemple, à des élections ouvertes.
Mais aujourd'hui, les textes sont clairs. Hein, en cas de vacance du pouvoir, oui. C'est le président du Sénat oui. qui assure l'intérim et qui organise l'élection au bout de 45 jours oui. sans pouvoir se présenter.
Oui, mais enfin, si on a par exemple, si on a un vice-président, on canalise encore mieux la succession.
Laurent Larcher, que pensez de l'argumentaire des partisans du oui qui disent qu'en 2018, le président américain et le président français qui seront aux affaires ne seraient pas favorables à une prolongation de Paul Biya à la tête du Cameroun?
En tout cas, je ne suis pas sûr que ce soit un argument qui soit...
C'est en tout cas la thèse qu'ils défendent. Hein.
Bon, écoutez, très bien, mais utiliser, je dirais, l'argument américain ou français, c'est quand même assez contre-productif, ouais. Quoi, me semble-t-il. Hein. Dans le... Enfin, je sais pas, il y a... Enfin, le Cameroun...
Oui, Paul Biya n'est pas homme à accepter des influences. On peut lui reprocher tout ce qu'on veut à Paul Biya, mais il a connu X présidents qui sont succédés au pouvoir en France. C'est pas quelqu'un à céder à des pressions extérieures, à mon avis. Et puis, le prochain président français n'aura aucun intérêt, peut-être, à modifier fondamentalement les relations entre Paris et Yaoundé.
Mais à Hassan Diop, ce qu'on constate également au sein de l'opposition camerounaise, c'est qu'il n'y a plus de figure qu'il incarne aujourd'hui.
C'est vrai que John Frondi est bien âgé, il a un peu le même âge, peut-être sinon davantage que Paul Biya, Maître Mouna, enfin bref, sans parler de Bello Bouba, enfin bon, toute cette qui a d'ailleurs rallié
qui
le
qui fait partie de la mouvance présidentielle, puisqu'il est ministre.
La mouvance présidentielle. C'est vrai que il n'y a pas de grands opposants. Alors bon, on pourrait peut-être parler encore une fois de Hamidou Marafa. Il est en prison, mais même lui, il s'inscrit toujours, bien que emprisonné, bien que se décrivant comme un prisonnier politique.
Et bien,
il est toujours membre du RDPC et membre donc du parti au pouvoir. Peut-être que le RDPC va se maintenir au pouvoir et que forcément le successeur de Biya sera issu des rangs de ce pouvoir. Mais à l'heure qu'il est aujourd'hui, à mon avis, il serait hasardeux de dire qui sera le successeur de Paul Biya.
La société civile camerounaise, un mot, Laurent Larcher.
Oui, là, pour le coup, autant où l'opposition n'a... Enfin, je ne veux pas lui faire injure, mais... Effectivement, elle est extrêmement divisée. Il n'y a pas de figure charismatique, emblématique. Autant où la société civile est beaucoup plus mobilisée, il y a des jeunes, même si le régime peut avoir la main dure également sur cette société civile. Mais là encore, on assiste à l'émergence d'une nouvelle génération qui se structure, notamment à travers les réseaux sociaux, qui a un pied dans la mondialisation, qui souvent, enfin, qui voyage beaucoup. Et là, on a peut-être le début d'un renouveau. En tout cas, d'une histoire qui est en train de s'écrire devant nous. J'ajoute, enfin, je terminerai toujours sur Paul Biya. Il ne faut pas oublier que Paul Biya fait aussi le travail pour les Occidentaux vis-à-vis de notamment Boko Haram. Là, pour le coup, il me semble, en tout cas dans les informations que j'ai, toutes mes sources, en tout cas du Nord Cameroun, me disent que l'armée est vraiment en première ligne, même si...
L'armée camerounaise.
Oui, l'armée camerounaise, bien sûr. En première ligne, donc au grand nord du Cameroun, et elle fait le job, quoi. Même si parfois elle tape assez fort, il n'en reste pas moins qu'elle réussit à... contenir l'avancée des groupes liés à Boko Haram, même s'il y a encore des attentats et des enlèvements. Mais là, on sait qu'on peut compter sur le Cameroun pour ce travail.
Un autre allié de plus. Ouais. C'est la fin d'Afrique Presse. Merci à Sam Diop de Radio France Internationale, à Stéphanie Hartmann d'Africa numéro 1 et à Laurent Larcher de La Croix. Vous pouvez revoir et réécouter cette émission sur les sites de RFI et de TV5 Monde. À la semaine prochaine.